Bonjour à tous.
Jour J pour le nouveau gouvernement voulu par Emmanuel Macron. Le Premier ministre Jean Castex s'apprête à dévoiler la composition de sa nouvelle équipe dans les heures qui viennent. Dans le reste de l'actualité,
la visite surprise hier soir de Jean Castex dans un commissariat de Seine-Saint-Denis. L'occasion de dire qu'il choisira lui-même le futur ministre de l'Intérieur. Dernière ligne droite du procès du Mediator avec les plaidoiries de la défense du laboratoire Servier. Et le saviez-vous, c'est la fête internationale du baiser ce 6 juillet. Pas facile en ces temps de coronavirus.
On en parlera d'ailleurs à 8h20. On fera le point sur l'épidémie avec Antoine Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. On attend vos questions au 01 45 24 7000. Et juste avant, à 7h50, on reviendra avec notre invité sur ce gouvernement Castex. La réaction de Mathieu Orphelin, ex-marcheur, co-président du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée.
France Inter.
Les téléphones auront chauffé tout le week-end. Le suspense devrait prendre fin aujourd'hui. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, s'apprête à dévoiler la composition de son gouvernement. 48 heures de spéculation pour des grosses surprises, promet un proche du chef de l'État. Le nouveau couple exécutif a dîné ensemble hier soir pour mettre au point ce doux gouvernement, comme il dit, resserré, mais ce joli symbole est difficile à tenir, Élodie Forêt.
Vœu pieux de chaque remaniement, l'hypothèse d'une équipe resserrée a été balayée hier par Jean Castex lui-même dans le journal du dimanche. « Je ne suis pas sûr, dit le nouveau Premier ministre, que des périmètres trop étendus soient forcément la garantie d'une plus grande efficacité. Une vingtaine de ministres vont donc être nommés, ainsi que des secrétaires d'État, probablement quelques jours plus tard. Un gouvernement dont les priorités ont été fixées par Emmanuel Macron dans une série de tweets. La relance de l'économie, la poursuite de la refondation de la protection sociale et de l'environnement, le rétablissement d'un ordre républicain juste et la défense de la souveraineté européenne. Une séquence qui devait se poursuivre avec le discours de politique générale de Jean Castex en milieu de semaine, finalement repoussée a priori au 17 juillet, soit après la prise de parole du président fixée elle le 14 juillet. Emmanuel Macron, qui avec cet agenda se place comme le seul maître à bord, le seul à fixer le cap.
Élodie Forêt. Alors, qui part, qui reste, si certains ministres actuels sont ressortis hier tout sourire de Matignon, comme Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin ou Olivier Véran, certains comme Christophe Castaner sont encore dans le flou. Le ministre de l'Intérieur sera nommé sur ma proposition, a déclaré Jean Castex à l'issue de sa visite surprise aux policiers du commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis hier soir. Car Christophe Castaner a eu affronté la crise des gilets jaunes, l'épuisement des policiers, la défiance d'une partie de la population envers les forces de l'ordre. Elles ont été très déçues par leur ministre dans le débat sur les techniques d'interpellation. David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, répond à Corinne Audouin.
Pendant la crise des gilets jaunes, il avait un crédit de confiance de la part des policiers, puisqu'il était très présent, il allait sur le terrain, il était au soutien des policiers. Et malheureusement, il y a eu des erreurs de communication qui fait qu'une crise s'est installée entre la base, les policiers et puis le ministre. Il a déçu les policiers, puisqu'il a fait, l'erreur en tout cas de laisser croire qu'il les lâchait en allant sur des techniques opérationnelles, en employant des mauvais mots, en parlant de l'émotion à la place du droit. Donc il a fait des erreurs de communication. Et moi, ce que je voudrais garder à l'esprit, quelles que soient les erreurs commises, ils ont aussi lancé un grand chantier de réflexion qui est le livre blanc de la sécurité intérieure. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le prochain ministre, quel qu'il soit, reprennent tout de suite en main ce chantier, puisque c'est un chantier essentiel pour l'avenir. On a besoin de stabilité, on a besoin d'une relation de confiance où un ministre entend ce qui se dit au sein des forces de l'ordre, entend l'appel de la population. Il y a des clés pour qu'on sorte de cette situation de crise et il faut qu'on continue à avancer sur ce sujet pour qu'on puisse satisfaire les Français.
David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est lui de retour dans sa mairie du Havre, des cieux plus tranquilles, mais il n'auront pas pour autant avec le chef de l'État qui compte sur lui pour préparer la prochaine présidentielle. Mais Édouard Philippe, au sondage insolent, pourrait-il s'emparer de l'Élysée en 2022 à l'insu de son plein gré ? Ses proches jurent que non, Simon Le Baron.
Édouard Philippe n'a qu'un objectif, faire réélire Emmanuel Macron, et il y mettra toute son énergie. C'est son ancien conseiller et ami intime Gilles Boyer qui l'assure, lui qui avait fait le déplacement hier au Havre. L'ex-premier ministre, lui, n'a pas un mot, pas même une allusion cachée à la politique nationale dans son premier discours à l'hôtel de ville. Il fait passer le message, il a beau quitter Matignon avec une stature nouvelle, lui qui était inconnu des Français il y a encore 3 ans, il redevient un simple élu local.
Je peux dire, comme beaucoup de mes collègues maires, que le fait d'être maire, le fait de se voir confier cette responsabilité, c'est avoir la chance d'exercer le plus beau des mandats que la République puisse offrir. Le plus beau.
Le maire du Havre ne dit pas en revanche qu'il ira jusqu'au bout de ce mandat en 2026. Mais ceux qui le connaissent le jurent, il n'est en aucun cas une menace pour Emmanuel Macron. Le président de la République compte d'ailleurs sur lui pour préparer 2022 en réorganisant la majorité. Une mission encore floue. Les deux hommes doivent en reparler à la rentrée. Mais Édouard Philippe n'a pas oublié à qui il devait d'avoir été Premier ministre, conclut Gilles Boyer, et il ne l'oubliera pas.
Simon Le Baron.
L'actualité judiciaire ce lundi, c'est le scandale du médiateur. Le procès touche à sa fin, Laurence.
Avec les dernières plaidoiries des avocats de la défense, le parquet avait requis des amendes à hauteur de 15 millions d'euros contre 6 sociétés du groupe pharmaceutique poursuivies pour tromperie aggravée, escroquerie, homicide et blessures involontaires et prise illégale d'intérêt. 5 ans de prison, dont 3 fermes, requis contre l'ex numéro 2 de Servier, Jean-Philippe Seta, et enfin 200 000 euros d'amende contre l'agence du médicament. Alors comment les laboratoires Servier vont-ils se défendre? Élément de réponse avec Corinne Audouin.
Face au parquet qui accuse les laboratoires Servier d'avoir fait délibérément le choix cynique de ne pas prendre en compte les risques du médiateur au nom de ses intérêts financiers, la tâche de la défense s'annonce ardue. Les avocats des laboratoires vont demander au tribunal de ne pas juger des faits parfois vieux de 25 ans avec les yeux d'aujourd'hui. Ce qui paraît être une évidence ne l'était pas à l'époque, a ainsi expliqué le représentant de Servier. Au cours du procès, Emmanuel Canet a reconnu une erreur d'analyse et une mauvaise appréciation du risque, car les cas connus d'atteinte des valves cardiaques étaient trop peu nombreux. Mais il n'y avait aucune volonté de dissimuler les propriétés anorexigènes du médiateur, ni ses effets délétères. D'ailleurs, les études sur la molécule étaient publiques, accessibles aux autorités de santé, a-t-il expliqué. Une façon de faire peser la responsabilité de la commercialisation du médiateur jusqu'en 2009 sur l'agence du médicament, également poursuivie. Les laboratoires jouent gros dans ce procès. Les parties civiles réclament à Servier 1 milliard d'euros de dommages et intérêts.
Corinne Audouin, c'est un procès extrêmement rare qui démarre aujourd'hui, digne d'un film d'espionnage. Deux ex-agents secrets français soupçonnés de trahison après avoir été retournés par les services chinois sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'implantation de la 5G s'accélère en France. Les opérateurs sauront bientôt quels équipementiers ils peuvent utiliser et le chinois Huawei n'est pas le bienvenu. Il n'y aura pas de bannissement total, explique ce matin aux Échos le patron de l'agence de sécurité des systèmes d'information. Ceux qui ont déjà commencé à travailler avec Huawei pourront obtenir des autorisations, mais seulement entre 3 et 8 ans. Quant aux opérateurs qui ne l'utilisent pas, eh bien, nous les incitons à ne pas y aller, explique le directeur de l'ANSSI. Sur le front du Covid-19, les dernières nouvelles des États-Unis n'ont rien de rassurante. Cité en exemple pour sa gestion de la pandémie, au début de la crise sanitaire, la Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, est désormais confrontée à une très forte hausse des cas quotidiens. La Californie devient le plus gros foyer de l'épidémie dans le pays. L'Amérique du Sud, elle aussi, est très touchée. Elle s'inquiète pour les 800 000 autochtones brésiliens, ces peuples qui vivent en état d'isolement volontaire. Ils se sentent abandonnés par le gouvernement de Bolsonaro. Le virus a déjà touché 112 communautés, Jean-Mathieu Albertini.
Dans la vallée du Javari, l'un des coins les plus sauvages et préservés de la forêt amazonienne, le peuple Kanamari ne s'attendait pas à être touché par le coronavirus. Mais Varney Kanamari explique que le virus est arrivé dans son village après la visite d'une équipe médicale il y a un peu plus d'un mois.
Apparemment, cette équipe n'a respecté aucune mesure de quarantaine. Ils sont venus faire des vaccins et l'un des infirmiers a été contaminé. Après 8 jours, les premiers symptômes sont apparus. Certains ont voulu s'abriter dans la forêt, mais c'était trop tard. Tout le monde était déjà contaminé.
Plus qu'une erreur de protocole, le cas des Kanamari est symptomatique de la gestion du gouvernement Bolsonaro. Aucune mesure de grande ampleur n'a été prise pour protéger les autochtones. Pourtant, le virus est particulièrement virulent contre ces communautés. En cause, des hôpitaux souvent trop éloignés, un mode de vie très communautaire ou des comorbidités comme le diabète, très répandu suite à des changements d'habitudes alimentaires récents.
Ma plus grande inquiétude maintenant, c'est d'éviter que ce virus n'arrive aux autres village. Sur notre territoire, il y a 53 villages, mais surtout, il y a des isolés.
Les autochtones isolés, ce sont des groupes qui n'ont aucun contact avec le reste de la société. Dans la vallée du Javari, il y a au moins 16 groupes d'isolés, et ce sont aujourd'hui les plus menacés par le virus. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Le Covid dans le monde, mais aussi en France, nous ferons le point avec notre invité à 8h20, l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique, Arnaud Fontanet. On attend déjà vos questions au 01 45 24 7000.
Pas de caméra. caméra, pas de smartphone, pas d'appareil photo qui flash à l'arrivée des stars et des mannequins. La semaine de la haute couture et la Paris Fashion Week masculine se font cet été en virtuel. Crise sanitaire oblige. Chanel, Dior, Valentino et tous les autres présenteront en ligne leur collection sous forme de défilés ou créations artistiques et tout le monde peut se connecter. Une Fashion Week digitale qui ne peut remplacer tous les défilés parisiens et les effets économiques qu'elle génère. Pascal Morand, le président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, qui organise cette semaine de la haute couture avec Mathilde Dehuy.
C'est un changement et une réelle innovation. En fait, ce ne sera pas nécessairement des défilés qui seront présentés. Ce seront des vidéos qui reflèteront l'imaginaire des collections et des créateurs. Ça pourrait être aussi des interviews, ça peut être des films inspirationnels. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, mais avec toujours la créativité au centre. Des événements digitaux sur une Fashion Week digitale ne peut pas remplacer une Fashion Week physique. C'est la même chose pour la haute couture. Les sensations ne sont pas les mêmes, l'émotion n'est pas de même nature. Et cette autre forme d'expression de la créativité, elle va compléter la manière dont ça se passe dans l'univers physique. On ne peut pas remplacer comme ça, et même ce serait vain. Les sensations, une communauté professionnelle qui se retrouve, et puis aussi les facteurs d'émulation, les facteurs d'empathie qui sont caractéristiques du monde physique. Et c'est pour ça qu'on reviendra à des événements physiques immanquablement.
Et pour terminer ce journal, une cause à défendre ou une pratique en voie de disparition en ces temps de Covid-19, le baiser. C'est la journée internationale du baiser, une journée de promotion depuis les années 90, car le baiser est bon pour la santé. Celui des amoureux fait travailler 34 muscles, il stimule le système immunitaire, contribue donc à une meilleure résistance aux infections. En moyenne, 80 millions de bactéries sont échangées lors d'un French kiss. Le baiser stimule la production d'endorphines, d'ocytocine, il apaise, il stabilise le rythme cardiaque et il renforce l'attachement. Mais cette journée internationale du baiser a un goût très, très particulier cette année. Le coronavirus a mis un coup d'arrêt au bisou. Illustration avec ses habitants d'Aix-en-Provence, rencontrés par Elisa Montagna.
Hélas, oui, on s'embrasse plus. Plus de bisous, plus de baisers, plus de bécots, plus de... avec personne.
Les gens proches, on reste quand même à leur faire la bise, pour ceux qui acceptent. Mais c'est vrai que pour les autres, ça met de la distance. Ça a changé les pratiques, notamment sur le lieu de travail.
Je préfère arrêter de faire la bise aux collègues. Franchement, ça nous fait gagner du temps. Sinon, il faut faire la tournée du bureau. On est 30 et on n'en finit plus, quoi.
Culturellement, pour certains, ça va être problématique, hein.
Ben, on le fait moins facilement, ouais. On se demande, est-ce qu'on le fait ou pas? On se fait un petit de la bise, non? Oui, bon.
Du coup, les vrais amis, je continue à refaire la bise comme avant. Et après, les personnes que je connais un peu moins, non.
C'est pas forcément moi, c'est plutôt les gens en face. Et hier soir, c'était une soirée. On a dit non. Ils ont fait le check avec le coude. Puis voilà. Quand on m'a dit non, mais c'est pas grave. Hein.
On est plus au check maintenant. Ouais, c'est mieux, c'est plus viril.
Des habitants d'Aix-en-Provence rencontrés par Elisa Montagna.